Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va enfin parler de Danganronpa, Trigger Happy Havoc. On parlera aussi d'Infamous Second Son, Metal Gear Solid Ground Zero, même si Pippo Mantis l'a un peu évoqué la semaine dernière, on va y revenir. Et Titanfall qui est sorti, on avait déjà parlé de la bêta un petit peu, et puis on va y revenir aussi. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Erwan Higuinen des Arocs et du Magazine Games. Bonjour Erwan.
Bonjour, le Magazine Games dans le numéro 2 est toujours en vente. Je ne sais pas s'il en reste, parce que les gens sont rués dessus, mais enfin, je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver quand même encore.
J'aurais été déçu si tu n'avais pas fait cette...
Avec Castlevania en couverture.
Oui, Castlevania en couverture.
Pourtant, je n'aime pas trop le Castlevania, mais je suis solidaire.
Non, c'est bien. Corporate, toujours. C'est bien. Et Joël Métro de 20 minutes. Bonjour, Joël.
Bonjour.
On commence avec toi, Erwan, avec des nouvelles de petits bonbons qui s'alignent.
Oui, des nouvelles de petits bonbons et de gros sous. C'est le King, donc King.com, qui est l'éditeur du fabuleux Candy Crush Saga, qu'on adore tous, évidemment, qui fait son entrée à la bourse de Wall Street. Là, c'est le jour, au moment où on enregistre, ça doit se faire aujourd'hui, donc ça aura eu lieu quand le podcast sera en ligne. Et la valeur, enfin la société est évaluée à 7 milliards de dollars, tout simplement.
C'est absolument ridicule.
Sachant qu'en fait, ils ont 180 jeux, semble-t-il, mais bon, en fait, c'est Candy Crush Saga qui fait l'essentiel de leurs revenus.
King, ça a été un très bon. Ils ont été très forts dans tout ce qui est free-to-play dans le navigateur, c'était assez balèze. Ouais. Avant Candy Crush, c'était.
Mais ils prennent un sacré risque, parce qu'effectivement, il n'y a que Candy Crush vraiment
et dont les revenus ont baissé au dernier trimestre 2013.
Il faut bien un jour que ça baisse.
Mais du coup, tout le monde évoque un peu le précédent Zynga qui aussi avait eu son entrée en bourse, qui avait un peu raté.
Qui s'est rétamé depuis.
Et par contre, en lisant un peu là-dessus, j'ai été surpris d'apprendre donc que King a des studios à Stockholm, Barcelone, Bucarest, Malmö et Londres. Donc c'est des gens très très créatifs qui ont des développeurs partout. Enfin, je pense qu'on...
Ah non, mais tout ce qui était en tout cas chez King, les free-to-play à jouer dans le navigateur, c'était quand même des trucs de pirates, des trucs de gladiateurs dans l'espace. Bon, après, c'était les modèles free-to-play, mais il y avait quand même beaucoup beaucoup de choses. Ils avaient essayé de faire une sorte de MMO GTA free-to-play. Il y avait pas mal de trucs. Après, bon, voilà, c'est le type de jeu que nous qui nous intéresse pas forcément.
Mais je suis un peu perplexe quand même sur l'avenir de la chose. Enfin, on voit Zynga qui avait photocopié Farmville de plein de manières différentes et qui la plupart n'ont pas marché. Rovio avec son Angry Birds marche toujours, mais moi je reste quand même super perplexe parce que voilà, je vois pas Rovio continuer avec, ils font des parcs d'attractions, des trucs comme ça, je vois pas ça durer 10 ans.
Non.
Enfin, mais là King annonce qu'ils ont plein d'autres jeux super qui vont arriver, donc bon. On va voir.
On va voir. Mmh. On verra comme s'ils se plantent ou pas, en tout cas lors de leur entrée en bourse. Joël, oui, bah c'était cette semaine.
Oui, c'était la semaine. C'était même la semaine écoulée. La remise des prix de l'Independent Game Festival.
Dans le cadre de la GDC.
La GDC, ouais. La Game Conference.
Game Developer Conference.
Merci. Et donc, qui est-ce qui est reparti vainqueur avec une moisson de prix cette année ? C'est le jeu de Lucas Pope. C'est Papers, Please. Donc ce jeu où on incarne un garde-frontière, un garde-douanier qui va décider de qui il laisse rentrer ou pas dans cette république un peu autoritariste. Donc trois prix pour Papers, Please. Le Grand Prix, le SEMA McNally Grand Prize qui vient avec une petite somme rondelette de 30 000 dollars, ce qui est pas mal. Et puis il a obtenu un prix dans la narration. Et également le prix dans le design. Et un autre jeu qu'on a plutôt bien aimé ici, c'est The Stanley Parable, qui lui a obtenu le prix du public lors de ces game developers, lors de cet Independent Game Festival.
Alors c'est assez rigolo parce qu'en fait on se rend compte que l'IGF, c'est depuis l'année dernière aussi, je crois que c'était un peu le même genre, commence à décerner des prix pour des jeux indés déjà sortis, alors que pendant très très longtemps c'était aussi l'occasion de découvrir, ils jugeaient sur prototype, on se souvient pas du tout, de Crayon Physics, on se souvient de Monaco, bon, qui est un peu déçu au moment de sa sortie, on se souvient de pas mal de
Minecraft aussi peut-être, non
Minecraft c'était a posteriori, Minecraft, mais la bêta existait déjà, ouais.
Mais c'est vrai qu'en plus c'était un moyen pour eux de se faire connaître, peut-être d'avoir des fonds, même enfin en particulier s'ils gagnaient, mais même autrement pour les aider à finir leur jeu, etc. Là c'est pas le cas du tout, parce que sur tous ceux qui étaient nommés, je crois qu'il y en a très très peu qui sont pas sortis encore.
Et alors moi ce qui est rigolo, c'est alors j'adore et The Stanley Parable et Papers, Please, mais il y a un côté gardien du temple de l'indie dans ce palmarès, dans l'IGF. Bon, bah, on sent que les gens de l'IGF ont envie de favoriser un certain type de jeu dans l'esprit jeu indé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un jeu indépendant c'est juste un jeu développé par une équipe indépendante à la base, donc il y a plein de petits jeux indés qui sont peut-être moins dans les canons du type de jeu indé. Là, on reste, voilà, Papers, Please, Stanley Parable, des expériences narratives un peu alternatives, pour Papers, Please, en plus, un contenu politique, enfin, des choses pas mal. Donc voilà. Bon,
et encore, il y a un autre jeu un peu différent, c'est Luxuria Superbia de Tale of Tales, qui a eu le prix, le Nouveau Award, qui est un peu la catégorie des jeux expérimentaux. C'est-à-dire que, voilà, justement, ceux qui ne sont pas narratifs, ils ont leur catégorie à part.
Mais ça reste Tales of Tales. Bon,
bah oui, qu'on connaît bien. Enfin, c'est pas des petits nouveaux non plus.
Et alors, dans les autres news de la semaine, on va en parler quand même avant de commencer le programme en jeu vidéo. Il y a quand même eu cette annonce fracassante dans la nuit de mardi à mercredi. Oculus Rift a sorti son développeur Kit 2 en précommande. Non, ça, c'était il y a 5 jours. Mais quelques jours plus tard, il y avait un message. Ça a été annoncé sur Facebook, un message de Mark Zuckerberg lui-même qui a annoncé le rachat d'Oculus VR. Pour 2 milliards de dollars, donc Oculus Rift devient la propriété de Facebook. Comment ça vous a fait réagir ? Oui, c'était à peu près. Ouais.
Chez moi, c'était grande perplexité. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui parodiait ça en disant que Copain d'avant avait racheté le Virtual Boy. Moi, ça m'a fait à peu près le même effet si l'information avait été celle-là. Quoi. Mais de quoi on parle et pourquoi et qu'est-ce qui se passe, quoi.
Moi, à titre personnel, j'aimerais dire tout d'un coup méfiance. Quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui, du coup, vont être un petit peu plus circonspects par rapport par rapport à l'Oculus Rift et la tentation de Facebook de à nouveau glaner des données par milliers.
Mais le premier, c'est Notch, Minecraft, ouais. Qui dit je ferai pas de jeu d'Oculus Rift.
Deux heures à peine après l'annonce, Notch annonce qu'il retire Minecraft. Enfin, il arrête le développement de Minecraft pour Oculus Rift tellement il a peur de Facebook. Il se méfie de ce réseau social. Après, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre pour ce genre de choses. Alors, il y avait en même temps le jeu vidéo et les géants de l'économie numérique, c'est pas nouveau. On a eu quand même une annonce. Enfin, il y a eu la rumeur d'Amazon qui se lancerait dans la construction d'une console de jeu. Ils ont acheté notamment des brevets proches du jeu vidéo. Ils ont racheté une boîte qui fait des contrôleurs de jeux vidéo aussi. Google avec Google Play, il y a eu aussi des rumeurs de Google qui se lancerait dans une console de jeux vidéo. Bon, ça n'a pas été le cas jusqu'ici. Enfin voilà, c'est quand même des univers assez proches. Et surtout, il y en a qui ont beaucoup beaucoup de pognon et il y en a qui en ont. Mais un peu moins. C'est vrai que, alors, si on regarde les systèmes de valorisation, Facebook, à l'époque, en juin 2013, c'est-à-dire il y a moins d'un an, il y a 8 mois, la valorisation de Facebook était de 60 milliards de dollars, ce qui était déjà beaucoup. En fait, ils étaient rentrés en bourse à 100 milliards de dollars, et ça avait un peu baissé à 60 milliards de dollars, et aujourd'hui, la valorisation totale est à 165 milliards de dollars. Donc, une entreprise qui, finalement, gagne, entre guillemets, 105 milliards de dollars en moins de 8 mois, finalement, elle peut dépenser 2 petits milliards pour acheter, pour se faire un petit truc.
Même si on nous raconte que les jeunes fuient un peu Facebook, tout ça, visiblement, c'est pas encore la panique là-bas.
Ah bah, c'est pas la panique parce qu'ils en sont à 1,3 milliard d'utilisateurs. C'est quand même monstrueux. Ils cherchent leur gros challenge, c'est évidemment ce qu'on appelle le next billion, le prochain milliard d'utilisateurs d'Internet. C'est essayer de voir comment raccorder ces gens-là à Facebook. Et surtout, en fait, ils ont tellement de pognon que effectivement, peut-être que leur base d'utilisateurs affaiblit, mais bah, d'un coup, ils achètent pour 19 milliards de dollars il y a quelques semaines à peine WhatsApp, un système de messagerie instantanée pour mobile qui comptait quelques centaines de millions d'utilisateurs. Donc en fait, ils ont suffisamment d'argent, sachant que quand on dit qu'ils rachètent Oculus Rift pour 2 milliards de dollars, ils rachètent Oculus Rift pour 400 millions de dollars en cash et 1,6 milliards de dollars en actions Facebook. C'est pas la même chose, même si 400 millions de dollars en cash, c'est quand même beaucoup. Et surtout, quand on se rappelle que c'était la semaine dernière, quand Ned Sabes était là et nous racontait la saga Call of Duty, les gros studios, ça se rachète, je crois que ID Software, on va reparler d'ailleurs dans ce cadre-là, mais ID Software s'est revendu à Bethesda pour 150 millions de dollars. C'est que dalle par rapport à Oculus Rift, un truc qui n'a encore jamais proposer un produit au public, vu qu'on en est quand même il y a le développeur kit 2 là, donc de la version quasi définitive qui est en précommande et qui devrait être livré en juillet 2014, mais il y a encore rien, sauf le Kickstarter sur où ils ont récolté combien, quelques millions d'euros. Mais 8 millions, je crois, c'est ça. Bref. Donc c'est super intéressant parce que ils ont du pognon, ils cherchent et ce qu'explique Zuckerberg dans son poste, c'est que aujourd'hui c'est le mobile. On a dépensé 19 milliards de dollars pour acheter WhatsApp parce que c'est le mobile aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est demain, donc on se positionne sur une des éventualités de ce que seront les réseaux sociaux de demain. Moi, ce qui me fait rigoler quand même, c'est John Carmack, employé de Google, ouais. De Facebook. Non, quand même.
Ouais, non,
on ne sait pas s'il va rester. Hein. Il a pas fait de déclaration encore pour l'instant.
En même temps, il est CTO, donc il est chef de la technique d'Oculus VR. Je pense, comme c'est le cas souvent, c'est qu'avant de racheter une entreprise comme ça, on vérifie bien que les principaux employés vont rester suffisamment longtemps. Donc, je pense que John Carmack ne devrait pas partir avant un bail. Enfin voilà, c'est la news. On comprend. Comme pour les 19 milliards de dollars de WhatsApp, là, on a du mal à comprendre. Et la somme engagée, parce que Oculus Rift, voilà, il y a d'autres, hein, en ce moment, même sur Kickstarter, il y a d'autres systèmes de réalité virtuelle qui sont en vente, qui ont l'air très bien. Il y a Sony qui fait son projet Morpheus, mais bon, peut-être que, remarque, Facebook pourrait peut-être racheter Sony, ils ont peut-être les moyens. On a du mal à comprendre et la démarche et la somme engagée.
Mais c'est pas le jeu vidéo qui l'intéresse, Mark Zuckerberg. Même s'il le prétend, quand il dit par exemple, oui, on pourra vivre un match de basket comme si on était sur le parquet, étudier dans une classe virtuelle, faire du shopping ou consulter un docteur à distance. Je pense que c'est plus cet aspect-là de la technologie qui l'intéresse vraiment.
Oui, et puis je pense que peut-être que Oculus VR, donc la boîte qui fabrique l'Oculus Rift, a déjà pas mal de brevets déposés ou ce genre de choses qui se monnaient très très cher en ce moment. Bon, après, c'est qu'une technologie, c'est ça qui est étrange. C'est vraiment qu'un objet qui n'a pas encore fait ses preuves. Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, on suivra ça. On demandera à Clément quand il reviendra. Un jour, Clément reviendra. Lui, il a déjà commandé le Dev Kit 2. Donc, on verra ce que ça donne. $350 pour le DK2 de l'Oculus Rift en précommande pour être livré en juillet 2014.
Mais il faut un compte Facebook avec.
Non, pas encore. Le com des com de la semaine dernière, donc c'était Call of Duty, Dark Souls et Towerfall. Red qui dit « Très chouette l'histoire de Call of Duty, mais ne passons pas non plus à côté de Dark Souls 2 sous silence. Pour aider à déplacer la série dans une nouvelle direction et suite à une décision prise à la fois par From Software et Namco Bandai, le directeur original Hidetaka Miyazaki, déjà responsable de Demon's Souls, a été remplacé par Tomihiro Shibuya et Yui Tanimura. » En tant que nouveau directeur de la franchise, ayant déjà réalisé la série Another Century épisode, ça a bien fait flipper tous les fans. Mais il faut dire qu'à part un léger manque d'âme, ça c'est l'avis de Red, ces deux-là ne s'en sont bien sortis. Miyazaki a tout de même officié en tant que superviseur, mais n'a pu être décisionnaire lors du développement. Il est officiellement occupé depuis 2012 en tant que directeur d'un nouveau projet dont on ne sait rien encore, ni même s'il existe. Voilà, ça c'était les informations des dessous de Dark Souls 2. Petit Vert qui dit de son côté, à vous écouter, j'ai vraiment très envie de me prendre Dark Souls 2, mais j'ai un dilemme. Je n'ai jamais joué à un jeu des séries des Souls, Dark ou Demon, et c'est bien que j'en entende toujours le plus grand bien. Mon problème, c'est que le mot qui revient le plus souvent à propos de ces jeux, c'est difficile. Moi, je dirais que c'est mort, mais bon, c'est pas... évidemment, moi aussi, j'aime les jeux difficiles, du genre qui te laisse les mains moites et le corps cognant à tout rompre parce que tu viens de porter un coup fatal à un boss bien retors et qu'il ne te reste plus qu'un 20e de ta barre de vie. J'ai même eu l'occasion, en mon temps, de plier des jeux réputés très difficiles comme Ninja Gaiden sur Xbox ou Megaman et Castlevania sur NES. Eh bien, je te dis, Petit Vert, si tu as fini Ninja Gaiden sur Xbox... Tu peux.
Je pense qu'il peut.
Dark Souls. Peut-être commencer directement par le Dark Souls 2, d'ailleurs, qui est peut-être un peu plus accessible, plus lisible, en tout cas, on en a parlé la semaine dernière, que le 1. Enfin, bon, les avis, il y a déjà des avis tranchés hein, dans le forum. Mais le truc aussi, c'est effectivement, c'est difficile, mais un mot qui revient peut-être pas assez souvent dans la série des Souls, c'est juste. En tout cas, on sait à chaque fois pourquoi on meurt, quelles sont nos erreurs. On sait que généralement, c'est de notre faute. Voilà.
Ouais, mais entre les gens méchants et justes et les gens injustes mais gentils, peut-être que je préfère les gentils, en fait.
Ouais, mais alors moi, je me souviens encore en Dark Souls, j'y suis allé à reculons hein, parce que j'avais peur de ce que j'avais. Moi, je suis pas très très courageux dans les jeux vidéo. Et en fait, bah, on se prend au jeu vraiment. Enfin, je vous conseille au moins d'essayer. Enfin, Killscore 2600 qui dit à propos de l'avis de Pippo Mantis sur Metal Gear Solid, où on se heurte une nouvelle fois à la question de la pertinence d'une note et encore plus à la notion de durée de vie. Un film d'une heure est-il moins bien qu'un film de 3 heures? S'indigne-t-on du temps nécessaire pour finir le jeu? On va reparler de Metal Gear Solid Ground Zero tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est l'heure de commencer par... On va faire un tour du côté de la Hope's Peak Academy dans Danganronpa. Everything they told us was a lie? What? Just as I thought. Now then! Murder took place in Makoto's room. In the bathroom, she didn't even have a chance to resist.
This is bad.
Just spit it out already.
Why?
How many times do I have to tell you?
What are you saying?
That's enough!
Shut up!
No woman. Nobody's gonna give in to despair.
Let's give it everything we've got.
Just hold on. That can't be
true. You're a liar.
Wait, what?
Danganronpa Trigger Happy Havoc sur PlayStation Vita, un remake d'un jeu déjà sorti sur PSP, un peu passé inaperçu car je ne sais pas s'il était sorti du Japon à l'époque. Je crois que il était resté cantonné au Japon et là il sort dans une version un peu façon Persona 4 The Golden qui a retrouvé une nouvelle jeunesse sur PS Vita. Là c'est le tour de Danganronpa. On incarne donc jeu de Spike Chunsoft déjà responsable de Zero Escape Virtus Last Reward, auquel je n'ai pas joué. Mais en fait, quand j'ai évoqué ce jeu-là sur Twitter, on m'a dit « Ah, il faut que tu essayes Zero Escape. » Bon, donc je dis qu'il y a ce jeu-là en stock à peu près aussi barré. Oui, parce que c'est un jeu légèrement barré, ce Danganronpa, Joël.
Ah ouais, non, mais c'est une véritable curiosité, une petite perle. Alors déjà, il faut savoir que c'est plutôt un manga interactif. Déjà, plantons un petit peu.
Visual novel.
Voilà, c'est interactive vraiment.
Interactive novel.
Donc, on va pas encore lancer le débat sur est-ce que c'est un jeu, est-ce que c'est pas un jeu. C'est un manga interactif. Bon, voilà. Donc, en fait, en quoi ça consiste? On va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Makoto, qui un jour se réveille dans un lycée, dans une espèce d'établissement spécial. Il sait pas pourquoi il est arrivé là.
Et en fait, il sait qu'il a été reçu quand même.
Qu'il a été reçu dans le lycée. Parce qu'en fait, il a été reçu dans ce lycée où il y a chaque élève a une capacité un peu spéciale.
Chaque élève est ultimate dans son domaine.
Voilà. Il y a une ultimate chanteuse pop, il y a un ultimate chef d'un gang de bikers, et lui, son ultimate power, c'est juste qu'il a de la chance. Et donc, il se réveille dans cet établissement, et il commence un petit peu à parcourir les couloirs. Il rencontre ses camarades qui sont aussi, qui se demandent bien qu'est-ce qu'ils font là. Et en fait, il découvre que tout l'établissement a été planté. Il y a des caméras qui ont été plantées dans tout l'établissement, qu'ils ont été coupés du monde, que toutes les portes ont été barricadées, donc ils se retrouvent vraiment isolés à l'intérieur de ce bâtiment. Et en fait, apparaît, et c'est là le côté un peu genre là, ça commence à devenir complètement what the fuck, apparaît un ourson qui s'appelle Monokuma. Et Monokuma, un ourson maléfique, va leur fixer des règles imparables. C'est pour sortir, il va falloir que les élèves se tuent entre eux.
Alors pour sortir, en fait, c'est
plus compliqué.
La logique de Monokuma, c'est pour sortir, il faut être diplômé. Seules les personnes diplômées peuvent sortir de l'académie Hope's Peak. Mais pour être diplômé, il faut tuer un de ses petits camarades.
Battle Royale.
Exactement, ça rappelle un peu Battle Royale.
Avec deuxième règle, il faut non seulement tuer un de ses petits camarades, mais ne pas être repéré par ses petits et les autres petits camarades survivants. Parce qu'après chaque meurtre, il y a le procès.
Le
trial.
Il y a un procès qui ressemble vraiment à... Alors là, qui plaira beaucoup aux amateurs de Phoenix Wright, parce que ça ressemble vraiment à un petit côté... ce petit côté, justement, jeu de... Enfin, je sais pas, jeu de tribunal, je trouve pas le terme. Donc, il va falloir trouver parmi... Donc, accumuler lors de ces visites. Donc, il y a des meurtres, forcément. Et il va falloir accumuler des preuves en visitant l'établissement et en discutant avec les autres élèves, accumuler des preuves qui vont servir, en fait, lors de ces séances de procès qui clôt le chapitre, découvrir qui est le meurtrier. Donc, parfois, on se retrouve même dans la peau de l'accusé. Donc, il va falloir montrer ses preuves pour se disculper. Et c'est vraiment, vraiment très, très bien fait, quoi. C'est drôle. C'est aussi assez effrayant, quoi. Parce que c'est-à-dire que c'est un peu, le personnage est un peu, de Monokuma est un malsain, un peu pervers,
voilà, on va dire.
Et puis on avance, parce qu'on a envie de connaître la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils ont été enfermés? Qui est Monokuma? Moi, je trouve que c'est vraiment un vrai petit joyau avec vraiment un style très, très pop, quoi. C'est super coloré, le sang est rose, rose bonbon. Et moi, c'est un titre vraiment que j'aime énormément.
Ouais, alors il y a ce côté visual novels avec un peu de Phoenix Wright, c'est ça, c'est qu'on récolte des indices d'une manière pas bien compliquée, hein, c'est pas bien compliqué de récolter les indices. Et pendant les procès, il y a des petits gameplays, qui sont pas les meilleurs gameplays de l'univers, un peu compliqués à manier parfois, pour interrompre un dialogue avec un peu un objection, la objection de Phoenix Wright. Non, j'ai un indice qui contredit cette phrase, donc la contredit. Hein, issu vraiment le principe de gameplay de Phoenix Wright. Après, il y a d'autres systèmes de gameplay où on va nous demander de prendre position sur un point ou un autre. Enfin voilà, il y a des confrontations directes façon jeu de rythme aussi avec un adversaire parmi les autres élèves. Voilà, j'ai pas fini sur les règles. Voilà, donc il y a un procès pour être diplômé, donc il va avoir tué quelqu'un et ne pas se faire accuser par ses petits camarades. Et à ce moment-là, on sort, mais tous les autres meurent. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est diplômé, tous les autres meurent. Et par contre, si on se fait repérer par par ses petits camarades, si on est accusé par les par lors d'un vote par les petits camarades, eh ben on est à son tour exécuté. Donc autant dire qu'à chaque procès, il y a minimum 2 morts. Il y a le premier meurtre et généralement l'accusé si on l'a trouvé et voire plusieurs, parce que ensuite il y a des nouvelles règles qui apparaissent. Parce que ce lieu là. Ce lycée lycée pour ultimate élèves ultimate, c'est un lieu plein de règles. Alors en fait, il y a les étages qui s'ouvrent après chaque procès. Il y a un nouvel étage qui s'ouvre avec des nouvelles salles à découvrir, des nouveaux indices. Parce que l'histoire, c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de trucs bizarres, il y a plein de trucs étranges. Qui est ce nounours qui apparaît partout ? À n'importe quel moment, il apparaît, il surgit de nulle part et il reparle de par là où il était venu. Il y a d'autres règles. On n'a pas le droit d'agresser Monokuma, parce que si on agresse Monokuma, on meurt. Hein, voilà, c'est suffisamment simple. Ensuite, il n'y a pas le droit d'aller manger lorsqu'il fait nuit. Voilà, c'est aussi.
On reste dans la nuit, on reste dans sa chambre. Quoi.
Ah oui, mais ça, c'est les élèves qui décident eux-mêmes.
Oui, c'est vrai.
La vraie règle de Monokuma, c'est on n'a pas le droit d'aller dans la diner's room pendant qu'il fait nuit. Et bref, il y a plein de trucs comme ça. Il y a une salle dans un coin où il n'y a pas de caméra. Donc il va peut-être se passer des choses dans cette salle où il n'y a pas de caméra. Il y a plein d'éléments, des retournements de situation complètement dingues. Et surtout, on arrive à un procès. Généralement, avec un petit doute sur qui potentiellement a commis le meurtre, on a déjà son doute, mais le procès ne se passe jamais comme prévu, et il y a toujours des rebondissements, des choses complètement dingues qui vont toujours dans des directions qu'on n'avait pas prévues. Et voilà, il y a un côté complètement inattendu tout le temps dans cela, avec Le côté what the fuck étant l'aspect principal quand même.
Mmh. Ouais, donc mais vraiment effectivement pour le gameplay c'est vraiment super simple quoi, c'est-à-dire que voilà, si on cherche un jeu qui va demander beaucoup d'attention, enfin en tout cas de précision, c'est pas du tout ça quoi.
Et c'est long d'ailleurs comme jeu.
À mon avis, alors je l'ai pas terminé, mais je pense qu'il va bien avoir pour une bonne dizaine d'heures. Hein.
Alors moi, j'ai lu 35 heures, 35-40. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fini en 20 heures. Je trouve ça très, très court. Là où j'en suis sans doute pas loin de 20 heures et je n'ai pas fini. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un côté visual novels. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que quand on parle avec les personnages, ne sont pas représentés en 3D, mais les décors sont en 3D et on a la possibilité de se balader en vue en first person en fait dans le bâtiment, ce qui donne un côté quand même un peu jeu vidéo moderne. On n'est pas juste là comme dans les visual novels japonais avec les personnages plaqués qui avec le texte qui s'affiche. Il y a le chara-design qui est complètement fou. Il y a les différents personnages. Tous les personnages sont, enfin voilà, il y a l'ultimate auteur de fanfiction quand même, avec toute la culture geek otaku qui va avec, l'ultimate pop singer, il y a l'ultimate blogueuse beauté quand même, enfin y a l'ultimate combattante, voilà, une nana. Complètement, enfin, ouais. Voilà, c'est fou.
Les dialogues sont souvent drôles aussi, sont souvent assez piquants. Enfin,
ouais. C'est en quoi ? C'est en anglais d'ailleurs ?
Inconvénient, tout le jeu est en anglais. Quoi. Il n'a pas été localisé.
C'est un peu classique dans ce genre de, de choses.
Tout comme Persona 4, ça n'a pas été traduit en français. C'est quand même le blocage le plus important. Voilà, on ne dira jamais assez bien sur deux Danganronpa, parce que voilà. Moi, j'ai retrouvé Persona 4, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a cette même surprise face à un jeu. Mm. Voilà, Danganronpa sur PlayStation Vita. Et c'est le moment d'aller vers Seattle dans Infamous Last Son, c'est ça ?
Second Son.
Second, c'est le deuxième.
Oui, c'est ça. C'est le deuxième. Second Son.
Mais le troisième.
Hey ! Hey ! You guys need any help ? It's one of those freaks ! No! Oh, this fast healing stuff is gonna come in real handy. Reggie, I did this.
Infamous Second Son, troisième épisode de...
Troisième épisode
des Infamous. Voilà, je finis par m'y perdre. Le premier, évidemment, sur cette génération-là de consoles. Erwan, c'est quoi ton premier contact avec cette Infamous?
Bah, d'abord, j'étais un petit peu déçu par le 2, en fait, qui était vraiment dans le prolongement du premier. Je trouvais que ça radotait un petit peu. Et quand j'ai appris qu'il y avait un nouveau, qu'on allait tout reprendre à zéro et qu'on allait perdre aussi un petit peu du style graphique très comique, là, j'étais un peu inquiet, mais enfin, en même temps, un peu excité à l'idée qu'il tente autre chose. Et effectivement, ça démarre, on a un nouveau personnage, il y a aussi un autre ton, en fait, parce qu'on part très vite. Moi, je m'en suis pas très loin dans le jeu, donc je le dis tout de suite, j'avoue. Moins loin que vous, je crois. Et au départ, on commence avec donc un personnage qui va se retrouver à récupérer des pouvoirs, en fait, à pouvoir... Je sais pas comment dire. Enfin, en gros, c'est un côté caméléon. Enfin, il y avait un personnage un peu comme ça dans la série Heroes à laquelle on repense un petit peu. C'est qu'il récupère différents pouvoirs qui vont s'ajouter aux autres pendant tout au fil du jeu. Et ça démarre entre lui et son frère qui est flic. Et puis ils vont pour diverses raisons, ils vont aller vers Seattle. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent.
Ils font partie d'une réserve indienne de la région la région de Seattle. Et donc dans cet univers où il y a les bioterroristes, c'est-à-dire les porteurs de pouvoir qui sont pourchassés par le DUP.
Il y a ce côté très très comique, c'est un peu vraiment excessif, mais on part aussi dans un truc de la vie quotidienne des gens ordinaires, enfin ce qui est plutôt pas mal, je trouve, qui donne un nouveau ton au jeu. Et moi, donc, je suis pas très loin, je le dis encore une fois, parce que voilà, pour différentes raisons, je suis obligé de jouer à plein de jeux. Depuis que j'ai une vie amoureuse, en plus, j'ai moins de temps pour jouer. Et en plus, parce que moi, j'aime beaucoup.
Pardon.
Non, je vais enchaîner.
le truc qui vient de nulle part. Merci, Erwan. Merci.
Voilà. Bon, non, mais il y a une expression que j'aime assez sur les jeux vidéo, c'est l'idée des plaisirs ordinaires du jeu vidéo, c'est-à-dire courir, sauter, grimper, chercher des choses. Et Infamous Second Son, c'est vraiment ça. Ça repose vraiment complètement là-dessus, sur le fait de nous donner des nouvelles possibilités. Le monde est un terrain de jeu, on essaie de courir le plus vite possible, de grimper le plus haut possible. Enfin, il y a un côté vraiment comme ça, sachant qu'il y a aussi toujours ce côté moral, with great power comes great responsibility, qui est toujours aussi neuneux, en fait. C'est-à-dire que on a deux choix, le choix gentil, le choix méchant, des gros indicateurs qui clignotent. Enfin, de ce côté-là, ça vole vraiment, vraiment pas très haut, et on peut pas se retrouver à être un méchant ou un peu méchant sans l'avoir voulu. Donc ça, c'est pas super intéressant. Mais vraiment, il y a ce côté vraiment très très jeu vidéo. Enfin, on parle tout à l'heure, on va parler de Titanfall, et pour moi, il y a un petit point commun entre les deux, c'est voilà, si on fait du jeu vidéo, on n'essaie pas de se faire passer pour autre chose, etc. Et en fait, je trouve que justement, ce Second Son, il ressemble à la PS4 dans l'esprit, en fait. C'est-à-dire, il y a un côté pas révolutionnaire, une espèce de back to basic. Vraiment.
Assez décomplexé, quoi. Voilà. Un jeu plutôt décomplexé qui prétend. Moi, je trouve qu'il n'est pas. Donc, il y avait peut-être une ambition un peu plus grande, mais je trouve qu'il la rate. Enfin, effectivement.
Moi, j'ai pas senti plus que ça, la grande ambition, mais.
Si, je trouve qu'il y avait une ambition dans le fait, comme tu disais, Erwan, de partir de l'histoire d'un ado des plus ordinaires et de raconter, voilà, le great power, great responsibility. Ça se sent, c'est-à-dire que je trouve que les cinématiques sont plutôt chiadées, sont bien faites, mais au niveau des dialogues, on est vraiment dans le blockbuster le plus lisse et le plus convenu avec cet ado. Ouais.
Dès le début, il y a une punchline que j'ai trouvé embarrassante. Ouais. J'avais envie d'arrêter la console.
Les dialogues sont un peu neuneux. Donc, il faut vraiment faire abstraction de ça. Et effectivement, une fois qu'on se lance dans le jeu, il est super plaisant. Il est très agréable à jouer. On retrouve vraiment tous les codes du jeu en monde ouvert, quoi. C'est-à-dire vraiment des zones, une grande carte débloquée, enfin divisée en différentes zones à débloquer avec un ensemble de missions secondaires dans chaque zone. C'est pas très original, mais ça dit, il y a une. C'est le jeu de la PS4 parce qu'effectivement, visuellement, c'est vraiment très chouette, quoi. C'est. Comme tu le disais, Erwan, je renchéris. C'est effectivement le plaisir de sauter, de courir, de se transformer avec donc ces différents pouvoirs qu'on va acquérir. Celui donc de la fume, où on va être une espèce de fumée. L'autre, un pouvoir de néon.
On passe dans les conduits à l'intérieur, c'est des trucs très chouettes.
L'autre des néons, on va aspirer les néons, qu'on trouve un petit peu à gauche, à droite dans la ville. Et c'est assez plaisant, quoi. Donc c'est joli, quoi.
C'est les
joli.
Noyaux, en fait. Ils appellent ça des noyaux.
Des noyaux.
Des fragments, oui.
qu'on va devoir me centrer dans les détails, qu'on va devoir après, comment dire, c'est-à-dire que lorsqu'on va, on va passer à côté de fumée, on l'aspire pour pouvoir utiliser le pouvoir fumé. Lorsqu'on va passer à côté de néon, on les aspire pour pouvoir profiter du pouvoir néon. Parce qu'au total, il y aura 4 pouvoirs différents. Ouais. Et effectivement, ce qui est pas mal, 4 pouvoirs différents. Et grâce à la manette et à ce système de succion, on va dire, des éléments, ça se gère très bien. Et donc, je trouve que c'est un jeu vraiment, moi, que je trouve plutôt, voilà, que j'ai bouclé assez rapidement. Je trouve plaisant, agréable et qui met plutôt bien en valeur techniquement, je trouve, la PS4.
Par contre, il y a un truc sur lequel j'ai quelques petites réserves, c'est l'utilisation du pavé tactile, l'utilisation de la détection de mouvement un peu. Ça fait un peu forcé, ça fait un peu, voilà, faut quoi, y a une liste de choses qu'il fallait forcément mettre dans le jeu pour montrer ce que pouvait faire la console. Des fois c'est bien, mais ça fait un peu forcé par moment quand même.
C'est clair, parce qu'effectivement l'ado Delsunwo, c'est un ado rebelle. La preuve, il a un bonnet, donc il est un peu rebelle.
Alors c'est quand même le chara-design. Parlons-en de ce chara-design de cet adolescent, parce que ça c'est la première chose que j'ai pas compris, quoi. C'est qui ce mec? C'est pas rien, enfin, c'est qui? c'est quand même le chara-design le plus plat de l'univers. Là, pour le coup, il y a aucune personnalité qui ressort. Il y a, je sais pas, c'est mettre un type lambda. Bon, bah, c'était peut-être la volonté, je sais pas.
Et juste, oui, pour revenir sur la manette, effectivement, pour la manette et l'ado rebelle, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il tag, quoi. Donc, on se retrouve, en fait, à utiliser la manette comme une espèce de bombe qu'on va secouer.
Ça, c'est un petit peu rigolo au début, la première fois.
Ouais, alors. Moi, j'adore secouer la manette avec le haut-parleur de la manette qui fait le bruit de la bombe de peinture. Moi, j'ai trouvé ça hyper classe.
Bon, au bout d'une trentaine de fois, ça devient vraiment pénible, quoi. Et donc voilà, c'est un peu cliché, un peu ridicule, un peu grotesque, voilà, ce côté ado rebelle, je tag, je bombe, mais le jeu est pas mal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je trouve qu'il y a une fraîcheur, je dirais pas, mais il y a un côté vraiment plaisir décomplexé, moi, qui m'a bien plu.
Alors moi, de mon côté, c'est vrai que je trouve qu'il va bien à côté de Killzone dans le côté un peu démonstration technique de la PS4. Là, on va même au-delà de Killzone. Je trouve que la démonstration technique est étonnante pour un jeu qui suit la sortie de la console. Donc, on en est à l'exploitation de 50% des capacités de la console, on va dire. Et il y a un vrai potentiel, là. On voit la profondeur de champ quand on est à Seattle, quand on est en haut du Space Needle, où on voit tous les paysages. C'est quand même super impressionnant. Il y a les animations, les particules. Bon, on sait que c'est le gros truc de cette génération de consoles, c'est les particules. Et là, il y en a de partout, des particules tout le temps, des trucs de fumée, d'étincelles, de choses qui partent dans tous les sens. Donc, c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Après, je vais pas redire exactement la même chose que vous. On est dans le jeu vidéo classique où on court, on saute, on va partout. On est aussi dans la débauche de pouvoirs. On a des pouvoirs très très vite. C'est-à-dire qu'on galère pas pour les obtenir. C'est pas, on est à l'antithèse exacte de Dark Souls 2 dont on parlait la semaine dernière. C'est-à-dire d'un côté on a le jeu exigeant, difficile, juste, où si on fait une connerie on sait qu'on meurt. Pourquoi? Bah on sait, mais on gagne pourquoi surtout. On sait qu'on va gagner parce qu'on le mérite, parce qu'on a fait le bon mouvement au bon moment, etc. Là, Infamous, on se pose pas la question. C'est on balance, on aspire de la fumée, on gagne des missiles de fumée, on balance contre les blindés, on économise des trucs pour utiliser l'arme ultime qui va tout nettoyer sur son passage. Enfin, vraiment, on est dans la débauche absolue de pouvoir, mais qui donne un côté hyper fun. On est dans le fun absolu. On va pas se poser de questions. On n'est pas ici pour du challenge. Pas spécialement, enfin voilà, il peut y avoir quelques regroupements de mini-boss un peu plus compliqués à gérer que d'autres, mais on n'est pas dans du gros challenge. Il peut y avoir plein d'ennemis, il peut y avoir jusqu'à 50-60 ennemis d'un coup sur la map. C'est pas un gros problème, on peut fuir très simplement, parce qu'on est beaucoup plus rapide que ses ennemis, donc on peut aller regagner de la vie, bah on se met derrière un mur, hein, c'est la méthode générale des jeux vidéo, on se met derrière un mur et on attend et on est en pleine forme après, voilà. Et on est dans ce fun, vu qu'en plus ce fun avec des graphismes un peu jamais vus, voilà, moi je me suis bien plu dans cet univers. Seul problème, alors on va revenir, je suis pas du tout du genre à dire que la durée de vie est un problème ou une petite durée de vie est un problème, mais c'est un monde ouvert, enfin on est dans Seattle, voilà, c'est Seattle, une ville ouverte. Moi, je trouve qu'on progresse très vite. Joël, toi, tu as fini le jeu. Je ne dois pas en être loin.
Je sais pas, 10 heures. Moins, voilà. Un peu moins.
Bah, ça, c'est pas. Alors, autant 10 heures dans un scénario linéaire, dans un jeu un peu linéaire, un peu couloir, ou tout ça, c'est des choses qui commencent à être acceptées, qui est acceptable. Mais là, en monde ouvert, sachant que c'est 10 heures en faisant les missions secondaires, en allant taguer sur les murs, en détruisant les caméras. Donc, vraiment, généralement, on est très incité. Puis, vu que c'est très fun, on nettoie les zones une par une. Mais ça dure pas bien longtemps. Enfin, j'ai peur que, je trouve que ça manque.
De contenu.
Ça,
parce qu'après les missions secondaires deviennent vraiment répétitives quoi, enfin au bout d'un moment, mais bon
ça, oui, ça manque d'idées alors en fait, parce que s'ils en avaient plus comme ça, ça aurait été pire dans ce cas là.
Oui, et puis ça manque de diversité, enfin je sais pas, on a Seattle en ville ouverte qui est plutôt bien modélisée, bon qui est plus petite que la vraie Seattle bien sûr, mais c'est comme si on a un truc qui se tient bien, bon on va le sortir comme ça,
oui,
on va
ça
pas chercher
à Seattle, ça pourrait se dérouler n'importe où, enfin vraiment,
c'est-à-dire sauf qu'il y a le Space Needle.
Oui,
le
voilà. Non mais voilà, ils utilisent pas la, je sais pas, l'esprit de Seattle, j'en sais rien, ouais,
je sais plus si c'était dans le premier ou le deuxième qu'il y avait la Nouvelle-Orléans.
Nouvelle-Orléans, dans le premier, c'était inspiré de New York.
Ouais. Et je trouve que ouais, c'est juste dommage parce que ce qui me dérange à chaque fois, c'est quand il y a les jeux, et surtout en ville ouverte, où le truc est déjà modélisé, donc ils ont fait le plus dur. Finalement, modéliser une ville et donner la possibilité de se balader, mettre des raccourcis, mettre des choses un peu à droite à gauche. Je trouve dommage de pas avoir chargé un peu de type de mission. Les missions secondaires, c'est pas des missions secondaires quoi. Enfin, généralement, c'est de taguer un truc contre un mur ou détruire une caméra. Ça s'appelle pas une mission secondaire. Y a pas de vrai d'ampleur au scénario. Finalement, on se contente de suivre et on va pourchasser. Je sais plus comment elle s'appelle, Amandine ou
Augustine.
Augustine, la chef du DUP. Et puis voilà, c'est un peu, du coup, c'est un tout petit peu limité. Mais ça reste une belle expérience visuelle, je sais pas.
Ah oui, je trouve. Et puis, mais effectivement, c'est dommage qu'ils aient pas plus utilisé ce système de karma comme dans les précédents. Donc, en fonction de certaines actions dans le jeu, et puis après certaines cinématiques, on a des choix décisifs à faire, finalement, qui influent pas tellement que ça sur le scénario, qui permettent juste, en fait, de débloquer des pouvoirs, des pouvoirs supplémentaires. D'ailleurs, donc, je recommande moi plutôt de jouer, soit complètement, d'être complètement dans le bien, soit complètement dans le mal.
Généralement, on n'a pas le choix.
Ouais. Ouais. Et je conseille de jouer plutôt vraiment à fond. Moi, je suis devenu complètement infâme. Quoi. Donc,
voilà. Ah, ça m'intéresse, parce qu'on avait déjà parlé des pseudos ici, mais maintenant, il faut parler du karma. Parce que quand on est dans un jeu où on peut choisir le bon et le mauvais. Joël, donc toi, tu pars par défaut, tu sais que tu vas partir dans une des deux directions, tu pars où ?
Ouais, plutôt dans le mauvais, en fait.
D'accord.
Moi, je pars dans le bon, j'arrive pas à être méchant. Non.
Ouais, moi, c'est pareil, c'est mon côté padawan de merde. je pars toujours du côté de la force, quoi. Ouais. Je crois que j'ai trop été pourri par Star Wars. Mais toi, et c'est fun, parce que moi, ce qui me gêne toujours dans ce genre de truc, c'est que bon, bah, je joue mon gentil, voilà. En plus, c'est simple, hein, le gentil. Parce qu'en fait, le méchant, j'avais déjà essayé, je crois que c'était dans le premier KOTOR, où j'avais essayé de jouer méchant. Et en fait, j'étais hyper frustré parce que par une sorte de réflexe, j'avais des réflexes de gentil de temps en temps, et ça me niquait mon karma méchant. Et là, voilà, c'est pour ça, maintenant, depuis, je joue le gentil parce que je sais trop ce qu'il faut faire, je sais qu'il faut pas tuer les innocents, il faut.
Ouais, mais c'est plus intéressant, justement, de jouer.
Je suis d'accord, mais j'ai un handicap, en fait, j'arrive pas. Il va falloir que j'ai recommencé Infamous et je joue méchant. Promis, j'essaye. Voilà, Infamous Second Son sur exclusivité PlayStation 4. C'est l'heure d'accueillir Monsieur Fall, de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. L'un de nous est trop dans cette ville, jeune chacal. C'est le genre de phrase que vous allez prononcer en jouant à Desperados of Dice Town. Un jeu signé Bruno Catala, Ludovic Maublanc. C'est édité par Matago. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 25 minutes. Les spécialistes du monde ludique auront reconnu quelques noms. Catala, Maublanc, Matago. Oui, ça ressemble à Dice Town, un jeu sorti il y a quelques temps, mais cela n'a rien à voir, ce n'est pas une extension, ce n'est pas une suite, c'est une espèce de spin-off. Ils ont pris les mêmes auteurs, le même éditeur et le même illustrateur, Monsieur Pierrot, pour faire un jeu qui n'a rien à voir, mais si ce n'est l'univers. Alors, qu'allez-vous faire dans Desperados of Dice Town ? C'est un party game, un jeu pour tout le monde, qui se joue extrêmement rapidement, avec du fun à l'intérieur et des dés. Vous allez maîtriser un gang, vous avez 5 cartes devant vous, en format ronde, vous savez, comme les sous-bocs de bière. Ces personnages donc ont des rôles. Ils sont dans un premier temps en prison, vous allez jeter des dés. Sur ces dés, il y a des symboles représentant chaque membre de votre gang. Il y a des impacts, vous associez les impacts aux membres de votre gang, vous rejetez 2 ou 3 fois les dés pour faire la meilleure combinaison. Et puis vous allez dans un premier temps tenter de les libérer. Et une fois qu'ils sont libérés, avec le même jet de dés, vous allez voler des pièces de l'argent, des dollars aux autres joueurs. La partie prendra fin quand un joueur aura ses 5 personnages libérés et sera le plus riche. Et oui, c'est fin, c'est malin, c'est subtil, c'est fourbasse, parce que parfois vous allez être le premier à libérer tous vos membres de gang, mais vous ne serez pas le plus riche, donc il faudra taper sur les autres, et parfois vous allez vous faire doubler ou le contraire. Enfin bref, c'est vicieux, c'est fin et subtil, d'autant plus que on peut vous voler de l'argent si le personnage qui agit chez vous est encore en prison. S'il est libéré, on ne vous prend pas d'argent. Enfin bref, il y a une espèce de genre de gestion de l'intelligence de vos personnages, de qui il faut libérer, quand il faut les libérer, d'association avec les autres autour de la table. Enfin bref, c'est fun, c'est fin, c'est excellent, c'est accessible pour tout le monde. Les parties se jouent tendu comme c'est pas permis, vous enfumez vos camarades, vous faites des alliances que vous allez trahir. C'est fun, c'est un excellent jeu. Je vous rappelle le nom, Desperados of Dice Town. C'est Bruno Catala et Ludovic Maublanc. C'est édité par Matago pour 2 à 4 jours à partir de 8 ans pour des parties de 25 minutes. Et ça coûte, écoutez-moi bien, autour de 18€, c'est-à-dire quasiment rien, sachant le plaisir que vous allez prendre à jouer à Desperados of Dice Town. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine, old boy.
À la semaine prochaine, monsieur Farrell. Desperados of Dice Town. Oui, j'avais... J'ai peut-être craqué pour ça. La minute culturelle. Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Je rappelle, il faut quand même rappeler. Vous connaissez, mais il faut y aller. Allez-y aussi, quand même. La minute culturelle, eh bien, on va faire la même minute culturelle que la semaine dernière. Vous n'étiez pas là.
Pour nous punir de ne pas avoir été là et du coup, on ne connaît pas les réponses.
Non, mais c'est parce que j'ai très très honte. Donc, la minute culturelle, la semaine dernière, c'était Jérémy Israël, mais Sinek. Donc, Sinek m'en avait envoyé exactement sur le même thème, mais pas avec exactement les mêmes questions. On va faire donc la minute culturelle, le Bechdel test par Sinek. Et donc, alors, rappel, parce que vous n'étiez pas là la semaine dernière, donc vous ne savez pas ce qu'est le Bechdel test, vous devriez le savoir pourtant. C'est une règle instituée par une nana qui s'appelle Bechdel, donc, qui voulait estimer quelle était l'image de la femme, comment les femmes étaient représentées dans un film. Ça valait pour un film. Et en fait, ça ne dit pas si un film est féministe ou pas, mais ça dit si un film se pose au moins la question que est-ce que les femmes ont une identité, ou, par exemple. C'est con, hein. Mais donc, il y a 3 règles pour passer le test de Bechdel. La règle 1, il faut qu'au moins 2 personnages féminins soient nommés, qu'elles aient un nom. Règle 2, qu'elles parlent l'une avec l'autre. Et règle 3, qu'elle parle d'autre chose que d'un homme. On se dit, c'est con, quoi. Enfin,
c'est facile.
Et ben, en fait, vous serez étonné de faire. J'ai dit exactement la même chose la semaine dernière, mais vous serez étonné du nombre de films qui ne passent pas ce test de Bechdel.
C'est étonnant. Ouais.
C'est dans les nominés aux Oscars cette année, il y en avait très très peu qui passaient le test de Bechdel. Mmh. Parce que voilà, les héros sont masculins, les femmes, il y en a une ou deux, mais qui se parlent jamais. Et quand elles se parlent, c'est parce qu'elles sont, elles ont le même mec ou. Voilà. Donc bref. Et donc dans les jeux vidéo, qu'en est-il? Et donc alors c'est un oui ou non. Et là il va aller dans les détails de là où il y a l'échec ou pas. Half-Life.
Oui.
Eh bien non, parce qu'il n'y a même pas 2 personnages féminins nommés. Voilà. Half-Life 2.
Oui.
Eh bien non, il y a 2 personnages nommés, effectivement, Alix Vance et Judith Mossman, mais elles parlent d'hommes entre elles. Mirror's Edge.
Oui.
Non.
Eh bien oui, Mirror's Edge, Face parle avec Kate et Céleste. Grand Theft Auto 4.
Non.
Oui.
Eh bien non, parce que Mallory et Michel parlent de Nico.
D'accord.
Grand Theft Auto 5.
Oui.
2. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a plusieurs personnages féminins, mais elles n'interagissent pas entre elles. Notamment, en fait, si, il y a la tante de Franklin, par exemple, mais la tante de Franklin parle avec ses amis, c'est-à-dire de femmes non nommées. Donc, donc ça ne passe pas le test de Bechdel. Batman Arkham City.
Non.
En fait, oui, mais en fait, il le passe que dans de DLC Catwoman, dans la scène entre Catwoman et Poison Ivy. Mais c'était le DLC qui était livré avec le jeu si on l'avait précommandé, je crois. Mass Effect 1.
Bah oui.
Oui, je pense Mass Effect. Oui.
Ça dépend si on prend un personnage féminin ou pas.
Alors, bon, si on prend un personnage féminin, évidemment que ça passe le test. Si on prend un personnage pas féminin, il n'y a juste que Lyara et sa mère, la matriarche Benezia, une scène optionnelle. Et en plus, les Azaris sont techniquement asexués. Donc, est-ce que ça passe ? Mass Effect 2.
Bah oui,
oui.
Oui, là c'est Miranda et Jack. Mass Effect 3.
Oui.
Oui, oui, aussi.
Bayonetta. Ça c'était déjà posé, mais
Ah oui, oui, Bayonetta. Oui. Bayonetta, oui. Le jeu féministe par excellence.
Tomb Raider 2013.
Oui.
Oui, Lara et Sam Nishimura ou Lara et Jocelyn Reyes. Red Dead Redemption.
Non.
Non.
Et non, mais juste sur l'échec 3, en fait, c'est juste Abigail et Bonnie qui ne parlent que de John Marston. The Last of Us.
Oui.
Uncharted 1.
Non.
Non, le 1, non.
Non, Uncharted 2.
Oui.
Non. Eh bien, non, parce que Chloé et Elena ne parlent que de Drake.
Ah,
oui. Alors, on va aller plus vite, j'en prends au hasard. Assassin's Creed 4, Black Flag.
Oui,
parce que Vanny et Fang en particulier parlent et non, ça, je suis sur la question suivante, donc en fait, j'ai évité de la poser. James Kidd et Marie Red recrutent Anne Bonnet et Aveline de Grandpré libère l'esclave Patience dans le DLC Aveline. Bon, et Final Fantasy XIII, du coup.
Oui.
Oui, voilà, non, parce que Vanny et Fang en particulier, voilà, c'était pour ça. Hein. Ensuite, par exemple, Heavy Rain.
Oui.
Eh bien non.
Ah ouais.
Eh bien non,
ah ouais.
Il n'y a même pas deux personnages féminins nommés. Et enfin, BioShock Infinite.
Non.
Eh bien non, en fait, il ne passe pas la deuxième étape, donc parce que c'était utilisé dans les critiques de tests pour démontrer qu'une œuvre véhiculant une image positive des féminins peut rater le test de Bechdel et inversement. Voilà, c'était le cas. Donc voilà, on en a fini avec le test de Bechdel, avec deux tests à la suite. Mais en fait, je trouve ça intéressant, tous ces trucs que finalement, le jeu vidéo le passe aussi, mais rarement. Sauf évidemment quand on a les jeux de rôle où on peut créer soi-même des personnages féminins, bien sûr. Et puis, c'est l'heure, je crois, de partir pour Metal Gear Solid Ground Zero. We'll send a chopper from across the Cuban border. The only catch is you go in solo. Fine. I like some alone time now and then. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Metal Gear Solid Ground Zero Prologue, prologue de Metal Gear Solid 5, qui va s'appeler je ne sais plus comment d'ailleurs.
The Phantom Pain.
The Phantom Pain.
Et qui sortira un jour peut-être.
Un jour peut-être, plutôt début 2015. Donc les fans étaient impatients, donc les fans vont pouvoir payer 20 ou 30 euros pour pouvoir jouer à un prologue.
Mais c'est 20 en dématérialisé et 30 en boîte, je crois.
Moi, c'est bizarre parce que j'ai vu à 30 en dématérialisé. Mais
C'est 20 en dématérialisé.
Ah, d'accord. Je me suis trompé alors.
Ça, c'est la technique Nintendo où c'est plus cher si t'as pas la boîte et la cartouche.
C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est ce MGS Ground Zero ?
Bah déjà, c'est bien parce que c'est la voix de Kiefer Sutherland, parce que je trouve que la voix de Snake, c'est un des trucs les plus insupportables dans la culture pop, avec celle de Christian Bale en Batman chez Christopher Nolan. Quoi, dans la
famille. D'accord.
Voilà. Je tenais à dire ça.
Non mais c'est important.
Ça me tenait à cœur et donc
voilà. Non, c'est vrai.
Donc content d'avoir Jack Bauer.
Donc Jack Bauer, c'est mieux. Hein. Ouais. Jack Bauer dans le rôle de Snake, c'est mieux. Et comment ça se passe alors ? On lance, on est dans une mission et c'est voilà.
Bon, on a un générique style générique de film avec écrit par Hideo Kojima, réalisé par Hideo Kojima, produit par Hideo Kojima. C'est un peu le défilé comme ça.
Kojima.
Enfin, visiblement, il rêve depuis toujours d'avoir un film comme ça avec son générique. Et bah, il l'a. En plus, la durée, c'est a priori à peu près celle d'un long métrage. Donc voilà, c'est un film d'Hideo Kojima avec.
Avec des personnages d'Hideo Kojima.
Avec un scénario quand même un peu limité, d'après ce que j'ai compris. Il y a des otages, on doit les libérer, point. Non, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais alors moi, je me perds un peu, moi, dans les Metal Gear Solid.
C'est insupportable. C'est quand même insupportable. La mythologie Metal Gear Solid, c'est devenu un truc dans le Metal Gear Revengeance, le jeu de combat. C'était à mourir de rire. Si on s'arrêtait 30 secondes pour réfléchir, c'était à exploser de rire, quoi.
J'ai un peu lâché.
Moi, j'ai arrêté aux deux.
Et il s'en fout, Kojima. Il nous rebalance ces personnages, ces trucs. Donc, il faut vraiment s'accrocher. Enfin, je pense que de toute façon, si on n'a pas joué au précédent, on n'y comprend rien. Donc, on va s'en tenir à on est Snake et on va aller sauver des otages, sauver des otages sur cette base militaire. Point à la ligne. Donc, ça, on comprend, il n'y a pas de souci. Bah effectivement, parlons déjà du point qui fâche quand même, enfin du point un peu énervant, c'est trop court. On parle de la durée du jeu est vraiment courte, je l'ai terminé en 1h40, c'est-à-dire 1h40 la mission principale. Après il y a des missions secondaires mais que je n'avais vraiment ça m'intéressait pas de les faire dans la mesure où le scénario était terminé et en fait le jeu en lui-même, le jeu d'infiltration, très bien fait, mais ça m'a pas suffisamment, c'est-à-dire le gameplay m'a pas suffisamment accroché pour avoir envie de me refaire des missions secondaires. Je trouve ça très bien fait, très très joli. Effectivement, on peut pas rentrer. Au début, j'ai commencé à rentrer dans le jeu comme un bourrin. Je me suis dit, allez, on y va, Assassin's Creed, je sais pas, enfin vraiment.
c'est pas l'ambiance.
Sabre clair. Et non, c'est pas du tout l'ambiance, vraiment. Et c'est ça qui est quand même assez agréable, c'est qu'il faut vraiment là pour le coup à nouveau être dans le silence, dans la furtivité. On avance vraiment très progressivement, pas à pas, en essayant de pas donc d'étouffer le bruit de ses pas, de pas éveiller les soupçons des gardes qui sont un petit peu partout. On détruit les lumières donc sur son passage qui peuvent nous éclairer. C'est vraiment c'est bien fait, mais bon, moi j'ai besoin d'un scénario quand même pour me faire un petit peu avancer, donc les missions secondaires non. Et puis, il y a un truc, un reproche que je ferais, c'est qu'il manque quand même une mini-carte. Enfin, parce que c'est vrai, comme du coup, donc là, on a vraiment une grande base militaire, un terrain assez ouvert, on a un peu du mal à se repérer, quoi. Et ce qui est vraiment embêtant dans un univers où il faut vraiment faire attention à ces moindres faits et gestes. Et ça manque vraiment, quoi. Je pense qu'à mon avis, ils vont l'implémenter dans la prochaine, Metal Gear Solid 5, enfin, la suite, quoi, le gros morceau. Mais sinon, oui, c'est pas mal, quoi. C'est bien fait, mais bon, on reste vraiment sur sa fin, quoi.
Erwan,
Moi, mon problème, c'est que justement, j'aime pas trop dans les jeux d'infiltration quand il faut vraiment faire attention et réfléchir. Donc, mon problème, c'est que moi, je pense que je vais mettre très très longtemps à le faire parce que j'ai déjà recommencé 5 ou 6 fois au début parce que je fonce dans le tas, je me bats, ça dure un certain temps et puis je meurs et il faut recommencer. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de checkpoints ou alors c'est moi qui vais pas au bon endroit ou je sais pas quoi. Moi, c'est pas forcément, c'est pas vraiment mon truc, mais je trouve ça assez impressionnant plastiquement, sur l'ambiance, tout ça. Je trouve ça, et qu'il y a vraiment, enfin, Kojima, on lui reproche beaucoup, je m'en moquais un peu tout à l'heure, de vouloir faire du cinéma, des films, voilà. Mais là, on est vraiment dans du pur gameplay, en fait, en tout cas pour ce que j'ai vu pour l'instant. Mais j'ai vu que le début.
Peut-être un peu compliqué, je trouve, avec la manette. Je trouve qu'il y a beaucoup de commandes. Je trouve qu'il aurait gagné une interface en plus. Je trouve qu'au début, c'est un petit peu compliqué, un petit peu. Ça reste encore un petit peu rigide, un petit peu compliqué à prendre en main, je trouve, au départ.
J'attendrai 2015 pour essayer Phantom Pain, la version complète. Donc, MGS The Phantom Pain sur Xbox One et PS4, c'est ça ?
Et PS3 et 360 aussi.
Oui, aussi.
D'accord. Je sais pas si une version PC pour l'instant, je suis pas sûr.
Et on va aussi parler un petit peu donc du FPS multi next gen qui est sorti il y a quelques semaines. On en avait parlé de la bêta, c'est Titanfall.
Je all transferring to pilot.
C'est un peu la suite logique de l'émission de la semaine dernière qui racontait la saga Call of Duty. Et à la fin de la saga Call of Duty, il y a Respawn Entertainment, studio créé par les fondateurs de... les créateurs de Call of Duty et qui font leur Titanfall en exclusivité sur Xbox One et PC aussi. Jeu FPS purement multijoueur, pas de solo, en tout, enfin, disons un multijoueur scénarisé, on va dire, parce qu'il y a une campagne, on peut faire les maps les unes après les autres dans le cadre de la campagne. Le principe, c'est qu'il y a des soldats qui sont petits, rapides, avec plein d'armes différentes et qui peuvent sauter, qui peuvent surtout,
qui grimpent,
surtout,
voilà,
qui peuvent courir sur les murs, sauter d'un mur à l'autre, hop, 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 et qui ont des armes. Et au bout d'un certain temps, ils débloquent leur titan qui atterrissent tout en subtilité, à côté, pas très bien, pas très loin d'eux, et on va monter dedans. Et là, le jeu prend une toute autre ampleur. Joël, t'en es arrivé au bout.
Ouais, enfin arrivé au bout, si tant est qu'il y a un bout à ce jeu. Il y a effectivement cette campagne qui, comme tu l'as dit, est un multijoueur scénarisé, qui se boucle assez rapidement, qui n'a aucun intérêt scénaristique. Et le bout du jeu, voilà, c'est le niveau 50 où on a tout débloqué, c'est-à-dire débloqué toutes les armes différentes, débloqué tous ces titans. Titans qui sont au nombre de 3. Je regrette, ils n'ont pas fait peut-être un peu davantage. Donc il y en a 3. L'un qui est plutôt vif, agile et rapide, et à l'autre extrémité...
Tout est relatif, hein, sur le vif, agile et rapide pour un titan.
Oui, oui. Oui. Mais celui-ci, en tout cas, les plus que... Alors, j'ai oublié leur nom. Les plus que l'autre, qui est, moins agile, moins vif, un peu plus pâteau, mais plus...
Il reste assez mobile par rapport à si on a déjà, ceux qui ont déjà essayé des jeux Gundam ou des trucs comme ça, où là, vraiment, on a la grosse boîte de conserve. Là, ça bouge quand même, c'est...
Oui, enfin, on sent. Moi, je trouve qu'il y a une... quand on est vraiment dans cette carcasse, dans ce méca de métal, on sent. Je sais pas, c'est les mouvements de caméra qui font ça. C'est aussi dans la manette de la Xbox One. C'est aussi le vibreur là. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de ce colosse d'acier.
Et le sound design, hein, qui est vachement bien aussi, qui est bien travaillé.
Alors, voilà, on a cette courte cinématique où on voit ce robot qui tend, qui s'abaisse pour nous accueillir. Je trouve ça assez mignon. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, alors pourquoi je suis allé jusqu'au niveau 50, j'ai trouvé super, assez addictif, quoi. C'est-à-dire que les parties sont plutôt courtes. Il y a différents modes, il y a à peu près 5 ou 6 différents modes de jeu. Vraiment que du traditionnel, de la capture de drapeaux, de la domination de territoire, ou du combat de titans pur et dur. Mais je trouve qu'il est très, très bien fait, quoi. C'est-à-dire que ça s'enchaîne très rapidement. Et surtout, il est très équilibré. C'est-à-dire que l'on joue un soldat de base ou que l'on soit à l'intérieur de son titan, les combats sont plutôt équilibrés. On n'est pas non plus un surhomme à l'intérieur.
Moi, mes sensations, bon, j'ai pas joué autant que toi, je suis pas au niveau 50, mais moi j'avais presque l'impression, alors, au bout d'un moment, que Titan c'est bien pour abattre les autres Titans et puis pour envoyer des explosions, des missiles et des choses comme ça, c'est top. Mais moi je supportais pas avoir ces espèces de petits insectes en bas là, avec leurs armes anti-Titan qui te cartonnent la tête, mais super rapidement quand même, hein, ils peuvent. Et j'arrivais pas, ils arrêtaient pas de bouger partout, enfin bon, faut dire, je suis pas non plus une star en FPS, mais j'avoue que j'étais autant finalement en humain, vu que j'étais en mode assassin avec le locking quasi automatique multi-cible, enfin qui est assez rigolo à jouer parce que t'as pas une, alors c'est compensé parce que t'as pas de comment on appelle ça, de distance de tir très élevée, mais qui est assez marrant à jouer, et ça jouait vachement sur la mobilité, en fait c'est un jeu où il faut courir, plus c'est plus important que viser, et du coup j'étais un peu frustré dans ce titan de me faire cartonner la tête par ces petits humains, donc je suis resté humain au bout d'un moment. moment. J'aime bien avoir mon titan à côté parce que, en fait, quand le titan est arrivé, il y a l'IA qui est en mode surveillance des alentours et qui,
oui,
cartonne
ça,
les ennemis.
Fait, on a notre copain
voilà.
robot. En fait,
voilà, moi je préfère avoir mon copain robot que d'être dans le robot. Mm. Non, pas toi.
Mais si, moi j'aime bien les deux. Ça dépend de. Après, j'adopte différentes stratégies en fonction de. Voilà, si je sais pas, si je fais du capture de drapeau, je pars avec mon drapeau en soldat et puis j'ai mon robot qui me suit derrière pour me surveiller. Non, mais ça dépend vraiment. Mais je trouve qu'il y a un petit côté, effectivement. Enfin, je parle de stratégie. Je trouve qu'au fur et à mesure. Effectivement, qu'on apprend les cartes, qu'on débloque des nouvelles armes. Je trouve qu'il y a un petit côté stratégique qui prend le dessus, qui est pas mal. Après, en contenu, c'est un petit peu... Bon, ça m'a pris peut-être une dizaine d'heures pour arriver au niveau 50 ou un petit peu plus. Après, on recommence. Voilà, on recommence avec quelques avantages. C'est pas mal, mais c'est un peu quand même chiche. Un peu chiche en contenu quand même. Ouais. Comme son le pendant du blockbuster pour la PS4, c'est-à-dire Infamous, c'est un peu on est un peu c'est là aussi c'est du plaisir décomplexé, pur, fun, c'est pas prise de tête, c'est bien. Mais bon, un peu ça va pas non plus très loin.
Il y a des DLC qui sont annoncés, j'imagine.
Oh, choses, sans blague.
Sans doute, je sais pas.
Bon, oui, des maps, des nouveaux robots. Je pense que la recette est faite pour. Hein. Enfin, y a pas. Bon, après, moi, j'aimerais bien un mode solo. J'en avais déjà parlé, mais je trouve que c'est dommage. Après, on sait très bien que aujourd'hui, il y a des studios qui se chargent des modes solo. Il y a d'autres studios qui se chargent des modes multijoueurs d'un même jeu. Là, il y a que Respawn qui s'est chargé du truc et ils avaient pas le temps. Les moyens ou pas de développer un mode solo. Mais je trouve ça toujours dommage d'avoir développé tout un moteur graphique, des jolis robots, des maps et tout ça, et puis pas avoir une histoire qui tienne un petit peu la route ou à peine, mais un peu spectaculaire, un peu fun à jouer.
Oui, non, mais ils ont pas fait. C'est pas très. Comment dire, c'est pas. Il n'y a pas une. Une méta-histoire. Il n'y a pas grand chose en fait autour, c'est un peu creux. Quoi.
C'est dommage parce que souvent chouettes les histoires avec des mechas.
Mais ouais, en plus, ils auraient pu. Ouais.
Des grands robots et tout, c'est cool. Bah voilà, c'était Titanfall. On est peut-être allé arriver assez rapidement, mais on en avait parlé quand même déjà un peu lors de la démo. C'est tout pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi à part ta vie amoureuse, Erwan?
Bah moi, cette semaine, je me suis fait faire un tatouage et contrairement à ce qu'on dit, ça fait vraiment mal. Voilà, je voulais en parler. Mais...
On va pas te demander ce que ça représente.
Non, je ne le dirai pas.
Ah,
c'est un oiseau.
C'est un oiseau.
D'accord.
Je n'en dirai pas plus. Sinon...
Genre, t'es tellement addict de Twitter que tu t'es tatoué un oiseau.
Non, ce n'est pas cet oiseau-là.
C'est même pas. Ah bon, tu m'as.
Mais la chose sera sur Twitter dès que la cicatrisation sera en bonne voie.
Ah oui, parce que c'est encore tout rouge. Là.
Bah oui, c'est encore tout frais, quoi.
D'accord.
Sinon, par ailleurs, quand je me fais pas faire des tatouages, j'ai rattrapé un peu une série qui s'appelle Looking. Je sais pas si vous connaissez, qui a été présentée comme le Girls Gay un petit peu au moment de son lancement. C'est une série HBO. C'est de la sitcom moderne, quoi. C'est des épisodes de 20-25 minutes. J'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre au début parce que je trouvais ça très stéréotypé, cliché, machin. Et en fait, ça se libère au bout de quelques épisodes justement de ça. Et en fait, au bout du compte, c'est pas tellement une série ou une sitcom gay, mais c'est presque post-gay. C'est-à-dire qu'on arrive à un endroit où c'est plus vraiment la question de la représentation en tant que minorité comme ça, mais ça devient quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire qu'on est au-delà de ce qu'il y avait dans des séries comme The L Word ou des choses comme ça. Et finalement, c'est vraiment très bien. Et en particulier, une formidable apparition dans quelques épisodes de Scott Bakula, acteur bien connu qui jouait dans je sais plus, c'était pas dans Code Quantum, je sais plus, j'ai un trou là, je sais plus, mais enfin en tout cas voilà, je pense que j'ai dit une bêtise, mais en tout cas il est formidable.
Mais donc, j'ai pas encore essayé la série Girls, mais
Girls, moi j'ai pas fini la saison 3 et un peu j'étais mitigé. D'accord. Puis en fait elle finit pas mal. J'en profite pour dire qu'il y a un hors-série sur les séries des Un Rock qui sort ce week-end.
D'accord.
La série Tech Idéale, 120 séries, et ça sort là, ça sort vendredi ou samedi, donc pour le week-end, une lecture idéale en plus de Games pour ceux qui n'ont pas encore. C'était la minute publicitaire.
Joël.
Bah, à propos de série, là, je me suis fait du binge watching avec True Detective.
Ouais. Raconte pas la fin, moi j'ai pas fini encore.
Mais moi j'ai pas commencé, mais voilà, c'est tout prêt là.
Voilà, c'est juste un régal, quoi.
C'est vrai. Non, mais j'en ai, bon, après, je connais pas que. Si, j'ai vu des gens qui étaient un peu plus circonspects, mais
ah
j'ai
ouais,
pas
non, moi, pour moi, c'est, enfin, en termes de mise en scène et puis de jeu d'acteur, c'est juste excellent. Et puis, j'ai découvert aussi le. Je suis en train de défricher le terrain du queer hip-hop, c'est-à-dire tous les. Tout, en fait, c'est. Tous ces. Plutôt des mecs, d'ailleurs, qui font du hip-hop, qui sont gays ou de la communauté LGBT. Donc, ce hip-hop qui est un peu underground, qui est surtout très présent, en fait, dans le nord-est des États-Unis. À Chicago
York,
et New York. Ouais. Et il y a ce jeune gars qui s'appelle Leaf, enfin jeune, je sais pas, je pense qu'il aura une trentaine d'années. Leaf, qui s'écrit L-E-1-F, qui vient de sortir son dernier EP que je trouve vraiment génial, avec un morceau qui s'appelle Boom, un autre qui s'appelle Vut, qui sont des morceaux super dansants. Et lui est vraiment très, très drôle, il détourne vraiment tous les clichés assez macho du rap, aussi bien dans ce qu'il raconte que dans ses clips. Et ça tient vraiment la route, aussi bien musicalement que visuellement dans ses clips. Je suis assez étonné par la qualité de cet artiste.
Donc Leaf.
Leaf, quoi, qui j'espère sera plus davantage reconnu.
Bah après cette émission, je pense que c'est
oui.
Ça,
oui.
Ça,
bah
sa carrière en France est lancée. Quand même.
Je pense qu'il peut signer un Olympia déjà avec cette citation. On continue du côté des séries. Alors moi, je voulais sortir un peu des meurtres d'enfants, parce que avec Top of the Lake, avec
c'est vrai que les meurtres d'enfants c'est rigolo un peu, mais on s'en lasse.
Avec la série anglaise dont j'avais parlé la dernière fois, dont je me rappelle plus le nom, la série anglaise, Broadchurch. Voilà, bon, c'était un peu des ambiances un peu lourdes, et on m'avait conseillé The Wrong Mans. Mans avec une erreur, hein, c'est-à-dire man au pluriel avec un S. The Wrong Mans, qui est une série de 6 épisodes, à chaque fois de 20-25 minutes à chaque fois, donc ça se regarde très très vite. C'est britannique, de la BBC. C'est à mourir de rire. C'est très drôle, c'est policier, c'est un très bon scénario, ça tient vraiment bien la route, et en même temps c'est gaguesque tout le temps au possible. Le pitch, c'est un mec qui va à son boulot à pied, il manque de se faire écraser, il y a un énorme accident de voiture, le mec part à l'hôpital, et en fait une fois que le mec est parti à l'hôpital, il trouve un portable dans la neige. Le portable sonne, il répond allô, et puis là il y a quelqu'un au bout du fil: si vous n'amenez pas l'argent avant 17h, on tue votre femme. Évidemment, ça ne lui est pas adressé vu qu'il n'est pas marié, et voilà, avec un pote à lui, ils vont se dire que c'est leur truc, ils vont essayer de trouver et de libérer cette femme qu'ils ne connaissent pas, ni d'Ève ni d'Adam. C'est super drôle, c'est vraiment, voilà, c'est de l'humour anglais, enfin même pas que anglais, c'est bien. Et en plus, le scénario qui est au-dessus tient vraiment bien la route, ça s'appelle The Wrong Mans. Je sais pas si c'est dans les 120 séries qui
je crois pas. Non.
Ah bah vous avez tort.
ce sera pour la prochaine.
Laisserai un commentaire sur le site des Inrocks, monsieur. Je vais pas me laisser faire. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.